VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à N'Djamena, bonjour à tous. Un policier et un civil ont été tués hier soir dans la province de Mwaro, dans le centre du Burundi, lors d'une attaque menée par un groupe de bandits armés non identifiés. D'après le gouverneur de la province, cité par l'AFP, le groupe de 4 bandits a attaqué les locaux du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, tuant le policier et le veilleur de nuit. Le gouverneur a précisé que les assaillants avaient blessé 4 autres personnes et emporté la recette du jour d'un dépôt de bière. Au Tchad, c'est aujourd'hui, mercredi, que les partis de la plateforme dénommée Front de l'opposition pour la République, le changement et l'égalité, force en abrégé, entendent organiser à N'Djamena leur rencontre interdite par les autorités. Pour le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mahamad Bachi, la plateforme Force ne remplit pas les conditions requises.
Nous avons dit simplement, votre coalition est dans une parfaite inégalité. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire une coalition, vous devez nous aviser pour qu'on prenne acte. Et à partir de ce moment, vous pouvez vous retrouver n'importe comment et n'importe où pour échanger, pour faire des points de presse ou pour faire des activités dans le cadre de la loi. Mais se réveiller un bon matin, se retrouver des copains et des coquins sous la bannière des partis politiques de l'opposition et dire que nous sommes une plateforme et nous voulons faire une conférence de presse, j'ai dit ça ne se fait pas. Et nous avons interdit cette assise-là.
Le ministre tchadien de la Sécurité, Boko Haram, est soupçonné de détenir des centaines de captifs, dont les quelques 200 fils de Chibok enlevés en 2014 dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria. Les forces armées nigériennes, aux côtés de celles du Cameroun, mènent des opérations dans cette zone reculée pour tenter de libérer les otages. Mais comme le rapporte notre correspondant Moki Edwin Kinzeka depuis Tourou, au Cameroun, cette forêt présente bien des difficultés pour les soldats engagés dans la traque des insurgés de Boko Haram. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide.
La plateforme Force avait donné rendez-vous à ses militants et au public mardi après-midi au centre culturel Al-Mouna de N'Djamena, mais a constaté que des policiers en interdisaient l'accès. Mahamad Bar Béchir est le coordonnateur national de la plateforme.
Ils n'ont aucun justificatif à nous donner. Ils disent que voilà, ils étaient envoyés par leur supérieur hiérarchique et voilà, qu'ils ne peuvent pas nous laisser entrer pour faire notre conférence de presse. Mais bien avant, la nuit, le ministre de la Sécurité.
D'une superficie d'environ 60 000 km², la forêt de Sambisa couvre un vaste territoire du nord-est du Nigeria. Difficilement pénétrable en raison d'arbustes épineux notamment, Sambisa a vite attiré Boko Haram, qui a fait de la partie proche avec le Cameroun son repère. Le colonel Boubacar Bakari, l'un des officiers supérieurs de l'armée camerounaise, commande les troupes autour de la forêt.
La forêt de Sambisa, c'est une forêt très très dangereuse. Je pense que c'est le QG de Boko Haram. Parce que beaucoup de Camerounais ont perdu leur vie en essayant de récupérer soit les otages ou bien combattre le Boko Haram.
Les autorités camerounaises ont fait état de 2 soldats tués et 30 blessés depuis le lancement d'une nouvelle offensive en mars dernier. L'armée nigériane a bombardé la forêt et a pu détruire plusieurs camps de Boko Haram, mais l'opération est menée avec prudence en raison des femmes et enfants pris en otage. D'autant que, selon le colonel Bakari, Boko Haram utilise les prisonniers comme boucliers humains. La forêt, dit-il, est infesté de mines terrestres. Mais il y a eu malgré tout quelques bonnes nouvelles. Dans la ville frontalière camerounaise de Tourou, des centaines de personnes se sont mobilisées dimanche pour accueillir Habiba Assalé. Boko Haram avait kidnappé cette jeune fille de 16 ans et plusieurs autres il y a 2 ans avant de les emmener dans la forêt. Elle a pu s'échapper la semaine dernière lors d'un raid mené par des soldats nigérians, mais a dû abandonner son bébé derrière.
On était emmenés dans un village musulman. Les hommes s'étaient enfuis et nous sommes restés. Ils m'ont forcé le mariage. Le jour suivant, j'ai été transférée à la prison de Sambisa, où il y avait un flux de filles. Ils nous appelaient toutes filles de chez Kao. Vraiment, je ne croyais pas encore à la vie. Je remercie du fond de mon cœur tous les soldats qui ont tout fait pour que je retrouve mon village.
Quant à l'armée du Cameroun, elle ignore le nombre de Camerounais détenus dans la forêt, surtout que des familles, par peur de représailles de la part de Boko Haram ou même d'être stigmatisées par les voisins, ne signalent pas toujours les enlèvements.
Une cour d'appel égyptienne a annulé les peines de 47 personnes condamnées à 5 ans de prison pour avoir participé à des manifestations non autorisées contre le pouvoir. La justice a maintenu toutefois une lourde amende de 10 000 euros. Les organisations internationales de défense des droits humains accusent le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi de diriger un régime ultra-autoritaire et de réprimer violemment toute opposition depuis qu'il a destitué en 2013 son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi. Le correspondant au Caire du journal catholique français La Croix a été expulsé mardi soir d'Égypte sans explication par les autorités. En poste depuis 2 ans en Égypte, Rémi Pigaglio rentrait de vacances en France lundi quand il a été retenu au contrôle de l'aéroport, a dit à l'AFP Guillaume Goubert, le directeur du quotidien. Après une nuit en cellule, il a été expulsé sans aucun motif alors que tous ses papiers étaient en règle. Barack Obama sera vendredi le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima, une zone interdite pour ses 11 prédécesseurs depuis la fin de la guerre. L'importance de la visite du président Obama est que les États-Unis, seul pays du monde à avoir utilisé des armes nucléaires, et le Japon, seul pays à les avoir subies, vont exprimer ainsi leur forte détermination à réaliser un monde exempt d'armes nucléaires, a souligné un fonctionnaire japonais du ministère des Affaires étrangères. Les bombes atomiques américaines ont été larguées les 6 et 9 août 1945, respectivement sur Hiroshima et Nagasaki, tuant plus de 210 000 Japonais, un drame indélébile qui n'a pourtant pas empêché le Japon et les États-Unis de sceller l'alliance sans doute la plus solide au monde. Élection américaine, l'homme d'affaires Donald Trump a remporté hier la primaire républicaine de l'État de Washington, se rapprochant ainsi de la majorité de délégués requise pour devenir officiellement le candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Par ailleurs, des heurts ont éclaté dans un meeting de Donald Trump au Nouveau-Mexique. Des manifestants et des individus masqués ont brûlé des t-shirts et jeté des projectiles contre la police qui protégeait une réunion publique du candidat.
VOA Afrique en direct de Washington.
La France a commencé à puiser dans ses réserves de produits pétroliers pour faire face aux problèmes d'approvisionnement en carburant affectés par le conflit social qui tournait aujourd'hui à l'épreuve de force entre le gouvernement et le premier syndicat du pays. Le conflit né d'une réforme contestée du droit du travail, présentée comme la dernière grande mesure du mandat de François Hollande, pourrait en outre se propager à la production d'électricité avec un appel à la grève jeudi des centrales nucléaires. La Russie s'est félicitée, elle, d'avoir enregistré une demande 4 fois supérieure à l'offre pour son premier emprunt en dollars depuis l'introduction de sanctions occidentales, même si certains analystes doutent du réel succès de cette opération après la mise en garde des États-Unis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a conclu mercredi un accord sur l'entrée au gouvernement de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, appelé au poste crucial de ministre de la Défense, supervisant le territoire palestinien. Après une semaine de laborieuses discussions, le Likoud et Israël Beitenu, les partis de M. Netanyahou et Lieberman, ont annoncé s'être entendus dans la nuit pour que M. Lieberman prenne le portefeuille de la Défense et qu'un autre membre de sa formation devienne ministre de l'absorption, autrement dit de l'immigration. Les talibans afghans ont annoncé aujourd'hui la nomination à leur tête du mollah et dignitaire religieux Hébatullah Akhundzada. Un choix rapide et inattendu pour remplacer le mollah Mansour, tué dans un tir de drone américain. Au moment même où cette annonce était faite, un kamikaze s'est fait exploser à proximité d'un minibus transportant les employés d'un tribunal de l'ouest de Kaboul, tuant ainsi 10 personnes et en blessant 4 autres, selon les autorités locales. L'attentat suicide a été revendiqué par le porte-parole habituel des talibans, Zabiullah Mujahid. Et puis, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen a estimé aujourd'hui que les parties en conflit dans ce pays étaient plus proches d'un accord, alors qu'il devait informer le Conseil de sécurité des pourparlers de paix en cours au Koweït. Le médiateur a indiqué qu'il devait informer plus tard dans la journée. Le Conseil a réuni à huis clos des progrès réalisés dans les pourparlers de paix entamés le 21 avril et interrompus à plusieurs reprises. Jean-Roger Billon à ses micros. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera avec Henri Francis. Merci pour votre loyauté et puis à bientôt, votre fidélité. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.